Chaque année, cette fête de l'Épiphanie nous rappelle une belle histoire, une histoire qui a fait beaucoup rêver, dont on a beaucoup brodé autour, et qui pourrait presque paraître un petit peu comme un ajout postérieur, presque légendaire. Or, il se trouve que un certain nombre d'éléments confirment cet épisode de la visite des mages, dont on ne connaît très peu de choses. On en a fait des rois un peu plus tard, mais en tout cas, c'était des mages, des sages. On sait peu de choses, mais par contre, on sait que réellement, il s'est passé un épisode de ce type-là. Et en particulier, la question de l'étoile qui interpelle, eh bien, semble être un épisode historique en moins 7 avant Jésus. Hein, parce que vous savez que le moine qui a calculé au Moyen-Âge l'âge de la naissance de Jésus, eh bien, s'était un peu trompé de quelques années. Donc voilà. Toujours est-il que cet épisode, s'il semble assez merveilleux, il est un épisode modèle pour nous, un événement modèle pour nous. Il nous inspire, nous, dans notre démarche chrétienne. Parce que ces rois mages sont le type même des chercheurs de Dieu, et cela nous interpelle, et sont le type même des adorateurs. Alors, pour vous dire quelques mots, je m'inspire en particulier de l'homélie qu'a fait le pape François hier, puisque c'est à Rome, la solennité de l'Épiphanie était fêtée hier, le 6, hein, parce que vous savez que l'Épiphanie est fêtée soit le 6, soit le 7 janvier dans l'Église universelle, et dans les pays où ce n'est pas un jour férié, eh bien, elle est transférée au dimanche de la semaine. Voilà. Toujours est-il que le Saint-Père souligne trois gestes que je vais reprendre brièvement. Trois gestes des mages. La première chose, le premier geste des mages, c'est de voir l'étoile. C'est un point de départ, de remarquer cette étoile. On remarque dans l'épisode des mages qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont remarqué l'étoile. Alors, on peut en tirer cette idée, c'est que beaucoup, et peut-être nous pouvons en être, beaucoup sont occupés par regarder le sol et non pas le ciel. Ne sont pas préoccupés par avoir les yeux levés vers le ciel et ne cherchent rien. Souvent, on se contente de regarder le sol, la santé, un peu d'argent, quelques divertissements, et puis cela suffit. Au lieu d'aspirer à davantage et d'essayer de chercher quelque chose qui nous dépasserait et qui nous élèverait, qui nous tirerait vers le haut. C'est ce qu'ont fait les mages, et c'est ce que nous sommes nous-mêmes invités à faire. Mais dans ce ciel, il y a beaucoup d'étoiles, il y a de nombreuses étoiles, et nous pouvons y voir aussi une image de tout ce qui brille autour de nous et qui peut nous détourner de la seule étoile vraiment intéressante qui est le Christ, qui est la lumière du Christ. Alors nous pouvons voir des lumières qui sont bien souvent intermittentes, qui vont et viennent en fonction des petites satisfactions de la vie et dont on peut parfois se suffire. Mais ne nous contentons pas de cela. Nous avons aussi d'autres étoiles qui, elles, sont éblouissantes, qui sont celles du succès, de l'argent, celles qui nous mettent sous des projecteurs et parfois nous y aspirons, d'être remarqués, d'être connus, d'être aimés. Alors ces étoiles sont aussi aveuglantes et attirantes, et même si nous ne cherchons pas à être des vedettes ou des stars, il n'empêche que là où nous sommes, au niveau où nous sommes, nous pouvons rechercher aussi ces étoiles-là. Les étoiles à la fois donc passagères, des petites satisfactions passagères, du minimum pour que tout se passe bien, et puis les étoiles aussi du succès, de ce qui nous fait connaître, remarquer, aimer. Eh bien, ce que les mages ont fait, c'est qu'ils ont suivi une autre étoile, une étoile qui ne s'éteint pas, c'est l'étoile qui est le Christ lui-même. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire, c'est chercher la vraie étoile, la lumière, car c'est d'elle que vient la véritable joie et paix du cœur. Le deuxième démarche que font les mages, c'est ils se mettent en marche. Ils marchent. Alors, sans allusion, évidemment, aujourd'hui, c'est compliqué de parler quand on marche. Mais voilà. La deuxième action des mages, c'est de marcher. Alors, je cite le pape François. Marcher, la deuxième action des mages, est essentielle pour trouver Jésus. Son étoile, en effet, demande la décision de se mettre en route. La fatigue quotidienne de la marche. Elle demande de se libérer des poids inutiles, des fastes encombrants qui entravent, et d'accepter les imprévus qui paraissent sur la carte de la vie tranquille. Jésus se laisse trouver par qui le cherche, mais pour le chercher, il faut bouger, sortir, ne pas attendre, se risquer, ne pas rester immobile, avancer. Jésus est exigeant. Il propose à celui qui le cherche de quitter le fauteuil du confort mondain et des tiédeurs rassurantes de nos cheminées. Suivre Jésus n'est pas un protocole poli à respecter, mais un exode à vivre. Voilà, se mettre en chemin n'est pas facile, mais nécessaire pour nous chrétiens. Nous sommes continuellement en chemin. Et on aime à dire, quand on réfléchit sur la liturgie de l'Église est essentiellement processionnelle. Vous venez en procession à l'Église, vous venez communier en procession, vous repartez chez vous. Nous marchons. Cette démarche symbolique signifie une démarche intérieure permanente et le danger, c'est de s'installer. Il y a plusieurs raisons au fait qu'on puisse s'installer. Nous voyons dans les personnages de l'Évangile Hérode qui a peur, Jérusalem qui a peur. Hérode, il a peur pour son pouvoir, il a peur que ça bouleverse trop sa vie. Eh bien, de même, Jérusalem, les gens de Jérusalem, ils ont peur, mais ils ont peur de la nouveauté de Dieu. Ils ont peur que tout ne soit pas comme avant. Ils voudraient que tout reste comme avant. On a toujours fait comme ça. Aucune raison que ça change. Le danger nous guette à nous aussi. Et puis, il y a une peur plus subtile, celle des prêtres et des scribes dans l'Évangile. Ils connaissent le lieu exact. Ils connaissent plein de choses sur la foi. Ils savent que le Messie va arriver. Ils savent les signes qui vont l'accomplir, qui vont l'accompagner. Mais pour eux, la tentation, pour eux, c'est la tentation qui peut nous guetter à nous, croyants aussi, croyants depuis de longues dates. Nous pouvons disserter comme eux sur la foi, comme d'une chose que l'on sait déjà et on ne se met plus en jeu personnellement. Pour le Seigneur. On parle, mais on ne prie jamais. On se lamente, mais on ne fait rien. On ne fait pas le bien. Les mages, en revanche, eux, parlent peu et marchent beaucoup. Demandons au Seigneur aussi de savoir nous mettre nous-mêmes en marche, oser nous déplacer intérieurement, oser attendre la nouveauté de Dieu. Et puis enfin, la troisième attitude des mages, adorer et offrir. Ce sont l'exemple même des adorateurs. Ils arrivent, ils se prosternent. Devant qui ? Devant un enfant dans une crèche, tout petit, qui n'a pas de... Rien brille, hein ? Il n'y a rien qui brille. Et sa mère, à côté, nous dit l'Évangile. Donc ils sont venus adorer cet enfant. Sans rien voir à l'extérieur. Ils reconnaissent en Jésus le Fils de Dieu. Et bien de même, nous aussi, nous sommes invités à adorer au-delà des apparences, c'est la démarche de foi. Mais à adorer et à faire comme les mages. Ils adorent et ils offrent. Ils offrent l'or, l'encens et la myrrhe. Et comme lui, comme eux, nous sommes invités nous-mêmes à offrir. Dieu donne Jésus, donne son Fils. Jésus se donne lui-même et nous-mêmes, à notre tour, quand nous l'adorons, quand nous le prions, la messe étant un acte d'adoration par excellence, l'acte d'adoration par excellence, nous-mêmes, nous sommes invités à nous offrir, à offrir notre être, ce que nous avons de plus cher, dans tous les sens du terme, notre vie, à tout offrir. À offrir à Dieu, à nous en remettre continuellement à Dieu. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, nous dit l'évangile de Matthieu, chapitre 10. Voilà, donner sa vie, faire le bien sans calcul, même si personne nous le demande, même si personne nous remercie, même si ça ne nous fait pas plaisir, donner. Essayons aujourd'hui de penser au don gratuit, sans contrepartie que nous pouvons offrir. C'est un acte d'adoration, cela accompagne l'acte d'adoration. Voilà, et puis enfin, eh bien, c'est à Saint-Augustin que je reprendrai cette dernière idée. Et je le cite. « Nous aussi, en reconnaissant le Christ comme notre roi et prêtre mort pour nous, nous l'avons honoré comme si nous avions offert de l'encens, de l'or et de la myrrhe. Et ne nous manque que d'en témoigner en prenant, comme les mages, une route différente de celle que nous avons empruntée pour venir. » Demandons au Seigneur d'être aussi de bons missionnaires. Amen.